Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Bon jeudi sous la neige, c'est Marianne Paquette qui vous accompagne à travers cette émission de C'est bon pour la santé sur les ondes de Canal M. En 10 ans, le défi santé 530 équilibre est devenu un rendez-vous de santé annuel pour plusieurs Québécois. Juste pour vous le souligner, là, en 2014, c'est 160 234 participants qui ont fait le défi, ce qui en fait l'une des plus vastes campagnes de promotion des saines habitudes de vie au Québec. Donc, c'est incontournable pour moi de vous en parler aujourd'hui. Et je le fais en deuxième partie d'émission avec la porte-parole Mélanie Ménard. Mais d'abord, avec l'avancement continuel, autant des connaissances du point de vue médical, scientifique, les gens qui vivent avec différentes limitations ont différentes voies, plus d'accès également à une gamme de nouvelles techniques pour les encadrer, que ce soit des thérapies également. Et parmi celles-ci, peut-être une des plus, peut-être plus méconnues, l'hypothérapie. On vous parle de ses bienfaits avec Caroline Mainville, elle qui est ergothérapeute et fondatrice de la clinique de réadaptation Caroline Mainville. Bonjour Caroline, merci d'être là malgré la neige qui tombe.
Bonjour, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui.
Quand je dis plus méconnu, je ne pense pas être vraiment loin de la réalité. L'hypothérapie au Québec, ça reste encore quelque chose dont on parle peu.
Effectivement, c'est une stratégie de réadaptation plutôt nouvelle qu'on entend de plus en plus parler, mais qui demeure, comme vous le dites, assez méconnue.
Et vous êtes l'une des pionnières un petit peu.
En effet, bien, effectivement, j'ai été la première ergothérapeute à pratiquer l'hypothérapie au Québec.
Mm-hmm. C'est quoi l'hypothérapie? Si on connaît un petit peu le grec, on saisit assez vite que c'est en lien avec les chevaux.
Mm-hmm, tout à fait. En fait, l'hypothérapie, c'est une modalité de réadaptation qui est réservée aux professionnels de la santé. Quand on parle de professionnels de la santé, on parle d'ergothérapeutes, physiothérapeutes et orthophonistes, en fait, des professionnels de la réadaptation physique.
OK, OK. Et on a besoin des chevaux, ça devient notre meilleur ami, là, c'est plus le chien.
Exactement, et il faut un peu faire la distinction entre hypothérapie et zoothérapie. Hein. On est dans l'utilisation du cheval comme une, entre guillemets, un peu une table de travail, si je peux dire comme ça, parce que le cheval reproduit le mouvement de marche de l'humain de façon identique, et donc la personne qui est assise sur le cheval va voir son bassin mobilisé, un peu comme s'il se déplaçait en marchant. Mm-hmm. Et donc, au niveau de la réadaptation neuromotrice, ça devient vraiment un outil très, très, très intéressant.
OK. À l'ancien, on veut faire la comparaison pour que ça soit bien clair pour les gens qui nous écoutent à la maison. La zoothérapie, c'est être en contact avec un animal, le flatter, être en sa présence finalement. Et en ce qui a trait à l'hypothérapie, le cheval devient vraiment un outil dont on se sert. Là. On est installé dessus, si je ne me trompe pas.
Exactement, dessus même sans selle, parce qu'on veut voir la transmission optimale du mouvement. Donc, on n'utilise pas de selle et l'enfant est assis sur un tapis, son bassin est mobilisé. Et donc, avec toute l'expertise des professionnels de la santé, il va aller au-delà de ça et faire d'autres activités, d'autres exercices pour aller améliorer différentes fonctions. Donc, c'est sûr que la relation avec l'animal est là. C'est sûr que l'enfant aime son cheval. Il y a toute la partie estime de soi qu'on ne peut pas dissocier. En même temps, contrairement à la zoothérapie, ce n'est pas notre objectif là, principal, au contraire.
Oui, oui. Vous avez dit, Caroline Mainville, enfant. l'hypothérapie, est-ce que ça s'adresse qu'à eux?
Je dirais qu'au Québec, c'est majoritairement une clientèle pédiatrique qui est suivie en hypothérapie. Par contre, c'est pas réservé aux enfants. Par contre, de voir des adultes, des fois, qui ont des lourds handicaps sur un cheval, ça peut être difficile autant pour la monte, la descente, pour tous les aspects de sécurité aussi. Et donc, c'est pas la clientèle là, majeure qui est suivie.
Uh-huh. Et en quoi ça peut aider un enfant d'être assis sur un cheval et de pouvoir épouser sa démarche?
En fait, c'est sûr que à la base, c'est vraiment pour des enfants qui ont des problèmes neuromoteurs. Hein. Donc, si par exemple, on pense à un enfant qui a une paralysie cérébrale et qui a des atteintes au niveau de son patron de marche, et le cheval va permettre d'acquérir ces patrons-là et de les travailler dans un autre cadre. En plus de ça, on va aller travailler tout ce qui est équilibre, ajustement posturaux. Hein. Quand je dis ça, c'est tout ce qui est nécessaire pour garder notre équilibre quand on marche, toute la force au niveau du tronc qui est nécessaire aussi. Et donc, le cheval va nous transmettre 10 000 inputs neuromoteurs à l'heure.
Wow!
Ce qui est assez significatif. On ne réussit pas à atteindre là, cette transmission de mouvement-là dans une thérapie conventionnelle, si mm-hmm. je peux l'appeler comme ça. Et donc, c'est de cette façon-là là, qu'on va aller travailler.
Est-ce que ça signifie que quand l'enfant retourne sur le plancher des vaches, là, sur mm-hmm. le sol, il a, grâce au cheval, compris une façon, peut-être d'avoir plus d'équilibre ou de marcher?
Exactement. On peut un peu le vulgariser comme ça, c'est que dans le fond, on va avoir travaillé son équilibre, ses réactions de protection, à comment je me protège si j'arrive pour tomber, par exemple. Il va être plus fort au niveau de son tronc et tout ça, c'est les prérequis là, pour la marche.
Mm-hmm. Ça vient d'où l'hypothérapie? Ça a été découvert de quelle façon?
En fait, on en entend, bien, si on retourne là, dans l'histoire, on voit qu'il y a les bienfaits du cheval qui sont relevés, là, même depuis très, très longtemps. Par contre, c'est vers 1960 en Allemagne qu'une physiothérapeute qui s'est rendue compte du potentiel du cheval pour des adultes blessés médulaires, là, paralysés au niveau de la colonne vertébrale. Et par la suite, ça s'est étendu. Au Québec, par contre, là, ça fait vraiment pas très longtemps. C'est autour de 2003-2004 qu'on a commencé à en faire.
Et vous, parce que vous êtes une passionnée d'abord des chevaux, j'imagine.
Oui,
là, l'ergothérapie, c'est venu plus tard. Vous vous êtes dit comment je peux allier mes passions enfant-ergothérapie et les chevaux.
En fait, j'ai plutôt gradué en ergothérapie... au préalable, mais j'étais une passionnée de chevaux, oui, puis j'ai découvert l'hypothérapie par la suite, donc je ne pensais pas que je pourrais allier mm-hmm. ma passion et mon travail. Ça mm-hmm. a été une belle découverte.
Et pour vous, Caroline, c'est important, et quand on s'est parlé il y a de ça quelques semaines, quand je vous ai invité à venir participer à l'émission, vous m'avez dit que c'est important pour moi de faire la distinction avec l'équithérapie, c'est ça?
Exactement. En fait, au Québec, on entend de plus en plus parler d'équithérapie. Si on regarde les termes qui sont vraiment reconnus, équithérapie, c'est ça ne devrait pas être un terme utilisé. On devrait parler d'équitation thérapeutique et d'hypothérapie. Et l'équitation thérapeutique, c'est vraiment un terme plus global qui encadre toutes les activités qu'utilise le cheval. Mais ce qu'on se rend compte au Québec, c'est que l'équitation thérapeutique, ça réfère vraiment un peu plus à un sport adapté. Ce n'est pas des professionnels de la santé qui sont là, c'est des instructeurs qui sont formés par une très bonne association au Québec et au Canada plutôt, qui vont offrir l'équitation comme un sport adapté duquel on retire plein de bénéfices globaux. Mm-hmm. Par contre, si on parle d'une thérapie, d'un moyen de réadaptation, à ce moment-là, c'est vraiment de l'hypothérapie et il faut s'assurer que c'est un professionnel de la santé qui offre le service.
Donc, quand on est, par exemple, face à un enfant qui vivrait avec une paralysie cérébrale, ça pourrait être un petit peu moins... adéquat.
En fait, tout est dans l'évaluation et les objectifs des parents. Si un parent veut offrir une activité de loisir et que l'enfant est rendu à 6-7 ans, qui fonctionne quand même bien, l'équitation thérapeutique peut être très adaptée. Par contre, on voit encore des enfants âgés de 2-3 ans très lourdement atteints au niveau du tonus, au niveau de leur paralysie cérébrale, qui sont suivis par des gens très bien intentionnés, mais qui ne connaissent pas exactement le développement de l'enfant et l'impact du mouvement du cheval.
Ouais.
Et les nouvelles études nous portent à croire qu'il y a quand même des risques là, mm-hmm. à choisir la mauvaise approche.
Caroline, on parle des objectifs et ça, c'est intéressant. Je trouve quand le parent arrive avec son enfant, vous l'évaluez bien sûr. Est-ce que tout de suite, on va sur le cheval? Comment ça se passe, le déroulement?
En hypothérapie, on a toujours une évaluation, donc des tests qu'on appelle standardisés, là, qui permettent vraiment de préciser les atteintes et le développement de l'enfant. Donc ça, c'est toujours fait au préalable. Et on monte sur le cheval, parfois en deuxième partie d'évaluation, afin de compléter les observations.
Quand même assez rapidement.
Assez rapidement, oui. Effectivement, on fait plein d'observations sur le cheval, puis les enfants, quand ils arrivent, ils ont tellement hâte de monter qu'on ne peut pas non plus attendre trop longtemps.
Mm-hmm.
Donc, on monte rapidement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, il y a des analyses qui sont faites, un rapport qui est rédigé, et tout ça, ça se fait en complémentarité avec ce qui se fait déjà, par exemple, dans les milieux publics. Hein. Les enfants sont des fois suivis à Sainte-Justine, à Marie-Enfant, et donc les objectifs en hypothérapie sont complémentaires.
Est-ce que c'est le pédiatre de l'enfant qui donne une référence d'aller consulter en hypothérapie?
Pas toujours. Il y a plusieurs physiatres, je dirais, qui réfèrent, des pédiatres aussi, mais souvent, c'est des parents qui en entendent parler et qui se disent « ben moi, je vais essayer une modalité un peu nouvelle hein, que j'entends parler puis qui semble bien réagir puis qui est complémentaire aux autres approches.
Mm-hmm. » Vous venez de dire le mot « complémentaire », ça m'amène à multidisciplinaire. Dans votre clinique, la clinique de réadaptation de Caroline Mainville, il y a plusieurs spécialistes, si je ne me trompe pas, là, des psychologues, des orthophonistes mm-hmm. aussi. Est-ce que tous ces professionnels-là pratiquent l'hypothérapie avec vous?
Non, en fait, c'est parce qu'on a deux points de service. On a une équipe interdisciplinaire assez complète, mais en hypothérapie, comme je le disais au départ, c'est vraiment des professionnels de la réadaptation physique. Donc, chez nous, c'est vraiment des ergos et des orthophonistes qui pratiquent l'hypothérapie.
En quoi ça peut aider du point de vue de l'orthophonie?
Ça, c'est toujours la bonne question. En fait, au Québec, il y a une seule orthophoniste qui pratique l'hypothérapie, puis elle est dans notre équipe. Dans le fond...
Rien de moins.
On est chanceux de l'avoir. En fait, les orthophonistes, pour vraiment travailler au niveau du développement du langage, vont aussi avoir besoin d'aller travailler au niveau du contrôle du tronc, au niveau de la respiration. Puis ça aussi, c'est quand même quelque chose qui peut se faire grâce au cheval. Mais habituellement, les orthophonistes travaillent toujours avec un physio ou une ergo.
OK. Maintenant, l'enfant, bon, vous l'avez dit tantôt, l'enfant, quand il arrive à l'écurie, j'imagine, là, la clinique est attenante à une écurie ou vice-versa, bon, ils sont contents, ils ont envie. D'ailleurs, on appelle l'hypothérapie aussi la thérapie sourire, là, donc ils ont envie d'être là. Mais j'imagine qu'une fois en haut du cheval, des fois, il y a le vertige, la peur de tomber. On gère ça comment, le contact avec l'animal?
Je dirais que la majorité des enfants sont très, très heureux. Par contre, il y en a quelques-uns qui ont très peur du cheval. Mais par expérience, moi, ça va faire 10 ans là, que je fais ça et jamais un enfant a eu trop peur pour monter à cheval ou ça n'a jamais compromis un suivi. Par contre, c'est sûr que la crainte initiale, on va la gérer avec les parents, avec un objet significatif, un toutou, un jouet, avec beaucoup de chansons. On est toujours 3 autour du cheval dans notre équipe. Et on amène ça d'une façon très, très ludique là, pour que l'enfant se sente à l'aise.
Et il n'y a pas de risque là, que le cheval parte en courant ou quoi que ce soit parce que vous les choisissez.
Exactement. Bien, les chevaux sont choisis à la base pour leur démarche très particulière, mais pour leur comportement aussi. Je vous dirais que la moyenne d'âge de mes chevaux, c'est autour de 18 ans. Donc, ils sont aussi plus sages avec l'âge. Mais il faut dire aussi qu'on a une équipe solide. Là. J'ai toujours un entraîneur, quelqu'un qui est spécialiste des chevaux. Une autre personne qui nous accompagne est le professionnel de la santé. Donc, il y a 3 personnes autour du cheval, dont un qui s'assure là, de sa bonne démarche puis qui ne va pas s'affoler.
Donc, la démarche des chevaux n'est pas la même?
Non, un peu comme nous. Hein, ah, si on ben oui, observe différents êtres humains marcher, on va chacun avoir un patron de marche différent.
Et qu'est-ce que vous recherchez, Caroline Mainville, dans la démarche du cheval?
Ce qu'on veut, c'est une démarche tridimensionnelle, ce qu'on appelle antéro-postérieure, latérale et rotation.
Ça veut dire quoi, ça?
C'est la démarche qu'on a. À nous, quand on marche, notre bassin va faire tous ces mouvements-là. Donc, on veut que le cheval ait ce mouvement-là. Et si, par exemple, on a un cheval qui a une boiterie, des fois, j'ai des vieux chevaux, des gens qui m'offrent des chevaux très gentiment, des chevaux à donner. Par contre, si c'est un cheval qui est blessé, qui n'a pas un bon patron de marche, on ne transmettra pas le bon mouvement à l'enfant qui est assis sur son dos. Donc, on veut un cheval avec une démarche souple, fluide, cadencée et tridimensionnelle.
OK. Donc, ça revient à ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, là, mais je le saisis davantage. Le cheval et l'humain ont la même démarche.
Exactement.
Et est-ce que le cheval est le seul animal qui nous ressemble à ce point de vue-là?
J'ai eu cette question-là il y a quelques mois, puis quelqu'un m'avait dit... L'éléphant semble-t-il à la même démarche? Mais là, écoutez, là, j'ai pas été vérifiée. On n'en a pas non plus ici. Mais semble-t-il que le cheval serait le seul.
Ça doit être un petit peu plus difficile à entretenir.
Effectivement.
Également. À quoi on peut s'attendre? Je me mets dans la peau des parents qui nous écoutent, qui ne connaissent pas l'hypothérapie, mais qui auraient envie peut-être de l'essayer pour leur enfant. À quoi on peut s'attendre comme progrès? Ça prend combien de temps? Faut vous visiter combien de fois?
Si on parle d'un enfant qui a une paralysie cérébrale, par exemple, si on se fie aux données probantes, c'est sûr qu'en deçà de 12 rencontres, les résultats sont moins intéressants. Donc, souvent, on va dire aux parents, bien, si vous voulez, par exemple, améliorer le contrôle du tronc ou de la tête de l'enfant, bien, on prévoit une douzaine de rencontres au moins, à raison d'une rencontre par semaine ou 2 semaines.
OK.
Par contre, il y a des enfants que je suis depuis 5 ans, il y en a qui viennent pendant 1 an, donc tout dépend de comment l'enfant évolue et de ce qu'on veut atteindre comme objectif.
Oui, après, l'enfant s'attache au cheval. Ça doit être très difficile quand la thérapie se termine.
Exactement.
Oui, oui, oui. La réadaptation. Comment on fait pour trouver... Est-ce que vous êtes les seuls au Québec? Comment on fait pour trouver un spécialiste de l'hypothérapie, là, vraiment certifié? On ne veut pas se tromper.
En fait, actuellement, il y a quelques centres. C'est sûr que c'est isolé, là, mais il y en a quelques-uns. Donc, la démarche à faire, c'est de visiter le site de l'Association canadienne d'équitation thérapeutique. Okay. Qui encadre l'ensemble des centres, que ce soit d'équitation thérapeutique ou d'hypothérapie. Ils s'assurent de la sécurité, puis ils s'assurent que les centres ont les bons professionnels en place. Mm-hmm. À partir du moment où on trouve un centre, on appelle et on s'assure qu'il y a un professionnel de la santé certifié par l'Association américaine d'hypothérapie.
OK, ça devient compliqué un petit peu quand même.
Exactement, mais il faut s'assurer qu'il y a un professionnel de la santé en place.
OK. Vous êtes situé à Saint-Hyacinthe.
Saint-Charles-sur-Richelieu, le centre d'hypothérapie.
D'accord, OK. Est-ce qu'il y en a plus près de Montréal pour les gens qui sont plus dans notre coin? Encore là, j'imagine, il faut faire l'appel.
Il n'y en a pas vraiment. Il y a un centre à Québec, il y en aurait à Sorel aussi. Okay. Saint-Charles-sur-Richelieu, on est quand même à 20 minutes de Montréal, 30 minutes.
Ah, c'est
30
à côté.
Minutes.
OK, ouais. Parfait. C'est moi qui connais mal ma géographie. Et est-ce que vous pensez, parce que vous êtes la fondatrice de la Fondation de l'hypothérapie, est-ce que je le dis comme il faut?
La Fondation Hippo.
La Fondation Hippo, voilà. Donc, vous êtes hyper impliquée dans le milieu, Caroline Mainville. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez qu'à travers les années, cette thérapie, cette stratégie de réadaptation-là va encore plus se faire connaître?
Si on regarde depuis les 10 dernières années, ça s'est drôlement fait connaître davantage. Donc, je pense qu'on peut juste continuer à faire connaître ça, autant par les émissions de radio comme aujourd'hui que par toutes les recherches qui s'effectuent au travers des diverses universités. Je pense que ça va se développer.
Mm-hmm. Parce que vous travaillez aussi à former des ergothérapeutes de point de vue à l'université, je pense.
En fait, on est un milieu de stage, mais je suis aussi co-directrice mm-hmm. de différents projets de maîtrise sur l'hypothérapie.
OK. Donc, tout ça, bien sûr, pour le bien-être des enfants. C'est bien intéressant. Donc, Caroline Mainville, ergothérapeute, fondatrice de la clinique de réadaptation Caroline Mainville, www.crcm.ca et également www.fondationhippo.org pour plus de détails. Merci beaucoup, ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer.
Merci à vous.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Mélanie Ménard.
Oui, bonjour.
Vous êtes, bon, parmi les nombreuses occupations que vous avez, vous êtes, entre autres, depuis 4 ans, la porte-parole du défi 530, du défi santé 530 équilibre. Et en 2014, il y a 73 000 familles qui se sont inscrites. Est-ce que, Mélanie Ménard, vous avez été parmi eux avec vos enfants?
Ah ben oui, c'est certain, ils sont obligés, c'est même pas, c'est une obligation chez moi.
Quels sont, bon, bien sûr, ça fait 10 ans que ça existe, c'est de plus en plus connu, mais on pourrait rappeler ensemble, Mélanie, les objectifs du défi santé.
Ben écoute, les objectifs, on a mis les objectifs simples et réalisables, puis faciles à retenir. Alors, c'est 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est 30 minutes d'exercice ou au moins modéré ou intense selon votre capacité. Et puis maintenant on a ajouté le volet équilibre. Mm-hmm. Puis le volet équilibre parce que c'est important de s'occuper de son corps, mais de s'occuper de son esprit, ça l'est tout autant. Alors tu vois, chaque année pour le volet équilibre, on propose quelque chose de différent pour se faire du bien à la tête aussi. Et puis cette année, on invite les gens à prendre une pause chaque jour, de se donner au moins 20 minutes à soi pour pas être trop stressé. Donc, tout ça, ça se fait pendant 6 semaines. Ça commence le 1er mars. Et puis, c'est le défi qu'on se donne. Puis nous, ce qu'on espère, c'est qu'avec ce petit 6 semaines-là, ça va donner envie aux gens de se prendre en main puis de faire un tournant dans la bonne direction.
Pensez-vous, Mélanie, pour l'avoir fait, ce défi-là, depuis quelques années, que les habitudes, elles demeurent après les 6 semaines?
Ah oui, forcément. Il y a vraiment des réflexes qui demeurent. C'est sûr que moi, je me plais à dire toujours, je ne l'ai jamais réussi totalement.
C'est bien. J'apprécie votre honnêteté.
Mais non, mais on peut pas. De toute façon, c'est très difficile, tu sais, pendant 6 semaines, de dire, OK, j'ai rempli toutes mes portions. Il y a des journées que, bon, c'est plus difficile à rentrer. Mais de juste, c'est niaiseux, mais juste ce défi-là, juste de l'avoir en tête, de dire, gars, faut que je fasse un effort, ça développe des habitudes, ça développe des réflexes que, mettons, la main va plus rapidement vers le plat de légumes que vers le sac de chips, par exemple.
Est-ce que c'est difficile pour les enfants?
Moi, je pense que c'est eux que c'est le plus facile parce que, aussi, tu vois, pour le 30, en tout cas, aller jouer dehors avec eux ou faire une petite activité physique, que ça soit de la Wii dans le sous-sol, ou, tu sais, c'est quand même plus facile. Puis souvent, puis c'est ce que j'aime aussi du défi 5-30, c'est qu'on n'encourage pas la performance.
Ouais.
On encourage juste à bouger, même si c'est pas... même si, tu vois, moi, je me suis acheté un panier de basket, fait que là, après souper, on s'en va tous faire du basket dehors. Bien, c'est quelque chose de ludique, puis c'est du temps qu'on passe en famille aussi, fait que ça, c'est du temps de qualité. Puis tu vois, les enfants, bien, c'est nous qui mettons ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Fait que c'est plus facile de leur faire passer le 5-30. Mais je pense qu'on a une belle génération qui sont élevées peut-être moins dans la malbouffe qu'on le pense.
Oui, et qui sont élevées dans le défi santé parce que ça existe depuis 2005 quand même.
Exactement. La conscience est là déjà, oui.
Mélanie, quand vous dites, bon, j'ai pas réussi, il n'y a pas une année où j'ai vraiment réussi au complet, comment ça fonctionne concrètement? Est-ce qu'on a un petit carnet? Il faut inscrire qu'est-ce qu'on a fait au quotidien?
Non, c'est ça qui est beau. Il n'y a pas de police qui pardonne et tout ça au-dessus de nos têtes. On va sur le site défisanté.ca.
Oui.
On s'inscrit. Puis là, déjà, en s'inscrivant, c'est quand même assez cool parce qu'on peut, on court la chance de gagner 2 lots de 5 000 $. Et puis là, on s'en va chez notre détaillant IGA. Il nous remet un petit passeport santé. Alors là-dedans, on a des coupons rabais, on a des recettes. Sur le site Internet aussi, tu as des recettes. Puis quand tu es inscrit sur le site Internet, tu as comme une fiche du participant. Puis tu peux là suivre toi-même ton évolution, mais tu n'es pas obligé de le faire à la lettre non plus. Il y en a que ça les intéresse pas d'aller rentrer les données à tous les jours. Mais ceux qui veulent être plus accompagnés, ben ils peuvent le faire à ce moment-là, mais sinon c'est en votre âme et conscience.
Mm-hmm.
Puis, on espère juste d'éveiller. Puis nous, ce qu'on va chercher avec le plus d'inscriptions possible, c'est sûr que on veut aller vers un Québec de plus en santé, de plus responsable possible, parce que c'est beau nous prendre quand on est rendu à l'urgence puis dans les hôpitaux, puis dire qu'il y a plus d'argent pour les soins de santé, mais nous on prend le gage que la prévention c'est encore plus important.
Mm-hmm. De prendre le tournant vers défi, parce que le défi Santé 5-30, on le connaît depuis plusieurs années, mais mm-hmm. d'ajouter équilibre, est-ce que c'était pour faire un petit peu de renverser la tendance où tout va très, très vite, nos horaires sont hyper chargés et on est bien stressé et fatigué?
Je ne sais pas si ça a été dans cette optique-là, probablement, parce que aussi il y a quelque chose qui s'en va. Parfois, on est tellement dans la pression, on bascule vers l'autre opposé qui est le OK, s'alimenter trop, trop, trop santé, puis après ça, faire mm-hmm. trop, trop, trop d'exercice, puis là, on se sent mal, on se sent coupable. Alors, le défi santé, c'est pas ça. Le défi santé, c'est vraiment du gros bon sens, puis c'est de prendre un jour à la fois, puis c'est de faire les efforts qu'on est capable de faire. Il y en a qui disent moi, je m'inscrirai pas, je suis déjà en santé, puis je le fais déjà. Mais on a toujours un petit quelque chose à améliorer. Pareil, on devrait boire plus d'eau, on devrait améliorer la qualité de son sommeil. Bien, ce petit 6 semaines-là, c'est juste un petit reminder, justement, un temps qu'on peut prendre pour penser à soi puis améliorer encore quelque chose. Je peux pas croire que des gens très, très, tout à fait parfaits.
Non, tout à fait, moi, la première, bien sûr. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait, le défi santé 5-30 équilibre. Est-ce que je me compromets aujourd'hui en disant que je le ferai?
Ah, honte à toi! Mais non, mais j'espère que tu vas le faire. Non, sincèrement, puis même si vous le faites, puis vous êtes déjà en santé, puis pour vous, ça se fait tellement facilement, bien au moins, vous venez d'enrichir les statistiques du Québec sur la conscientisation de la population face à sa propre santé. Fait que ça, c'est vraiment rien, il n'y a vraiment rien à perdre en s'inscrivant. Là, c'est pas un concours que vous allez être bombardé d'informations, puis que...
Non, c'est ça. Puis on se fera pas taper sur les doigts si on échoue, on mange une frite ou quoi que ce soit pendant une journée.
Non, pas du tout. Je suis la première à avoir subir toujours un relâchement. Puis là, oups, le défi santé arrive. Puis là, je fais, oh, enfin, je vais retrouver le petit lousse dans mes jeans.
Mais justement, ça, c'est intéressant, Mélanie Ménard. Pendant les 6 semaines, c'est quand que ça devient le plus compliqué, le plus ardu de suivre le défi?
Moi, je trouve que c'est les premières. Moi, je trouve que la première semaine, c'est la plus difficile parce que c'est là que c'est le plus conscient des petites choses à corriger. Mais une fois que tu as pris ce beat-là, on dirait que tu y penses plus. Puis c'est vrai qu'on est intoxiqué au sucre. Puis, tu sais, d'aller vers une pomme pour un dessert ou aller vers quelque chose, en tout cas une clémentine au lieu du petit gâteau au chocolat, bien, c'est vraiment, pour moi, c'est mes péchés mignons. Là, je suis une dent sucrée. Fait que c'est un réflexe difficile à couper pour le début. Mais après ça, t'as plus l'impression d'avoir ce besoin-là, fait que ça se fait plus mécaniquement. Mm-hmm. Mais je te dirais que les deux premières semaines, des fois, en tout cas pour moi, c'est plus difficile. C'est le réalignement du bateau là.
Oui. Et bon, en terminant, parce que vous devenez une habituée là maintenant en tant que porte-parole, et ça fait 4 ans que vous le faites avec les enfants, avec votre famille, des petits trucs là, hyper concrets que l'on pourrait qu'on pourrait partager avec les auditeurs là, et qu'ils pourraient faire pendant les premiers jours, justement, qui sont plus difficiles.
Écoute, des petits trucs hyper concrets. Moi, je suis encore de la vieille méthode de l'agenda et du calendrier sur le frigo. Ça fait que moi, j'appose des collants à ceux qui ont réussi leur portion ou leur défi. Puis j'annote tout ça, puis ça fait un beau tableau plein de couleurs à la fin quand t'as l'impression que tu t'es pris en main. Fait que tu vois, ça fonctionne beaucoup comme système d'émulation à la maison, même avec les grands. Moi, je me mets encore des collants dans mon agenda quand je réussis à m'entraîner. Et puis, c'est toujours le plus difficile, c'est arriver dans le train-train quotidien quand on est dans une semaine que t'es beaucoup de boulot avec les devoirs par-dessus le marché, tout ça. Moi, j'essaie le dimanche de planifier nos repas, puis de sorte que on planifie nos repas, puis nous, on se fait un petit jeu, vu que je suis toujours un peu dans le ludique. Moi, j'ai travaillé en garderie.
Ben oui, vous n'êtes pas comédienne du tout, vous, là.
C'est ça. Nous, on aime beaucoup, chaque personne autour de la table propose un repas qui contient des fruits et des légumes, qui a des portions, puis on les met dans un pot, puis on pige les repas de la semaine. Fait que là, au moins, on est sûr que, puis déjà, on s'enlève le gros casse-tête de « Oh mon Dieu, non, j'en ai pas dans mon frigidaire, je peux pas faire ça ce soir. » Fait qu'on peut planifier l'épicerie en fonction. Puis, on est certain que même s'il y a beaucoup de légumes dans l'assiette, c'est un des repas qui a été choisi par un des enfants, fait qu'il n'aura pas le choix de le manger. Puis de préparer ses légumes à l'avance aussi dans le frigo, puis de les avoir toujours à portée de main, c'est tellement plus facile.
Et puis après ça, pour le 30 minutes de sport, bien c'est gravir l'escalier, c'est aller jouer avec les enfants dehors. Encore là, on l'intègre dans le quotidien.
Exactement. C'est aller promener le chien, c'est se stationner un petit peu plus loin, c'est prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. C'est toutes des choses qu'on sait déjà, mais des fois, de se fouetter, ça fait du bien de s'en rappeler.
Mélanie Ménard, les gens, les Québécois ont jusqu'au 1er mars pour s'inscrire. Il n'y a pas de place limitée, là. Tout le monde peut y aller. On vise le 8 millions, j'imagine.
On en veut. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui à la une, journal 24 heures, notre maire Denis Coderre a décidé d'embarquer dans le mouvement. Puis il a perdu 15 livres déjà, lui, parce qu'il a commencé à le faire avant les autres.
Ah oui, bien sûr.
Fait que, le but n'est pas de perdre du poids, mais de reprendre sa santé en main. Fait que je pense que ça, c'est un beau coup de pouce.
Un beau coup de pouce, un très beau modèle aussi. Et merci d'en être la porte-parole, Mélanie Ménard. On vous suivra au cours de ces 6 semaines-là. Et puis je m'engage, je vais aller m'inscrire tout de suite à la fin de l'émission.
Oh, là, tu me fais plaisir, mais surtout, tu te fais plaisir. C'est formidable.
Donc, www.defisanté.ca, Mélanie Ménard. Merci beaucoup et bon défi santé.
Parfait, merci vous aussi.
Bye. Rémi Hermoso à la mise en onde, que je vais tenter aussi de convaincre de faire le défi santé 530 équilibre. Marianne Paquette au micro qui s'est engagée et qui vous donne un rendez-vous demain. D'ici là, vous pouvez toujours nous réécouter en rediffusion à 17h et nous suivre au www.canalm.org. Portez-vous bien, profitez de la belle neige à l'extérieur et à demain. Bye bye.